Respirer. Apprendre.
Le train TER numéro.
S'évader. Découvrir. H2O en balade.
Prenez garde à la fameuse automatique des portes.
H2O en balade avec Christophe Noiseux et plein d'invités des rendez-vous nature aussi, le reportage. Dites-nous tout sur le sommaire de cette émission, Christophe.
Eh bien, dans quelques instants, on va vous présenter une association reconnue d'utilité publique.
Oh oui.
Oui, absolument. Mmh. Et nous aurons deux représentants de cette association. On vous en parle dans quelques instants. Aux environs d'une heure moins 20, on vous donnera quelques rendez-vous nature, des découvertes à réaliser dans la belle région Auvergne. Et puis, aux environs d'une heure moins 10, quatrième épisode de notre reportage Mousse toujours sur l'univers fascinant des mousses en compagnie d'un naturaliste non moins fascinant. Il s'agit de Gérard Guillot, avec qui on s'est baladé au-dessus de Châtel-Guyon pour s'intéresser justement à l'univers fabuleux des mousses.
H2O en balade.
Arnaud Ranty.
Christophe Noiseux. H2O.
Et aujourd'hui, nous recevons les représentants d'une association qui mérite vraiment un coup de projecteur.
Oui, et cette association intervient en Auvergne et dans les départements limitrophes pour venir en aide aux mammifères sauvages.
Quand vous dites venir en aide, qu'est-ce que vous entendez par là, Christophe ?
Eh bien, Arnaud, sauriez-vous par exemple quoi faire ? Quel comportement adopter ? Qui appeler si vous trouviez un animal sauvage blessé ?
Ah, eh bien non, franchement là, non.
Eh bien, l'association que nous recevons aujourd'hui est là pour répondre à ces questions.
Car porter secours à des animaux sauvages blessés ne s'improvise sûrement pas.
Ah, ça c'est clair, il ne faut pas faire n'importe quoi, adopter un comportement approprié et surtout savoir se protéger, car en voulant porter secours aux animaux sauvages, on peut faire de mauvais gestes, mettre en danger l'animal et se mettre soi-même aussi en danger.
Alors quand on parle de mammifères sauvages, cela va de la chauve-souris au cerf ?
Dans l'absolu oui, et c'est ce que nous allons voir en compagnie de nos invités Laurent Longchambon et Pierre Lallemand de l'association Pense Bête.
H2O. Jusqu'à 13h, redécouvrez l'Auvergne avec H2O et son invité.
Alors vous qui nous écoutez, auditeurs, vous regardez votre poste, Pierre Lallemand est à votre gauche et Laurent Longchambon est à votre droite.
C'est l'oreille droite et l'oreille gauche.
Absolument.
Très bien.
Pense Bête en stéréo, bienvenue à vous deux.
Bonjour Christophe, bonjour Arnaud.
Bonjour à tous.
Alors Pense Bête, ça s'appelle comme cela, c'est un beau jeu de mots, pense dans le sens pansement, hein. On pense, on soigne. Hein.
Voilà, on pense, on soigne des blessures à l'âme ou au corps, c'est l'œuvre de l'association.
Et on fait des fautes d'orthographe.
Ouais. Ça peut arriver.
C'est qui a eu l'idée de ce titre, ce jeu de mots, vous savez pas ?
Un grand débat, hein. Ça a été très long, on a changé de nom plusieurs fois.
Ah ouais, oui, parce qu'au début c'était Lassamassavi et il fallait bien réveillé pour le dire.
Voilà,
quoi.
C'est ça.
Bon, c'était peut-être un peu le but, en effet, du changement de nom. En effet, c'est, la moquerie est facile, mais c'est ça.
Alors, le logo que vous avez trouvé, c'est un hérisson avec un pansement sur les pics. Ça veut dire qu'on pense tout de suite au hérisson blessé. On parlait de plusieurs mammifères, mais c'est vraiment le hérisson qui a toute sa place chez Pense Bête.
Alors, le fameux hérisson pansementé, d'après... c'est la grande parole de notre collègue Pierre, là. Et c'est vrai qu'on est dans une espèce... bien à part. Et l'idée, c'est en effet de toujours...
Au début,
appliquer...
c'était ça.
Alors, dans l'esprit, en tout cas, trouver quelque chose assez imagé, sensible, très affectif.
Oui. L'animal qui parle au public, quoi.
Voilà, oui, on est puis... vraiment celui qu'on croise de temps en temps et qui ne fait ni peur, et pourtant qu'on croise au quotidien.
Vous ne soignez pas que des hérissons. On est d'accord.
Non, évidemment non. Mais là, avec le hérisson, on avait une espèce qui faisait vraiment le lien entre l'homme et la nature assez facilement, puisqu'il y a encore quelques temps, on la voyait assez facilement. C'est une espèce anthropophile qu'on arrivait à croiser autrement que sur le bord des routes.
Ouais.
Et c'est une espèce que tout le monde a vue.
Oui, bien connue.
Alors, avant de parler en détail de l'action de Pense Bête, comment ça fonctionne, ce qu'il faut faire quand on se retrouve face à un animal sauvage, comment en vient-on à faire partie d'une association comme celle-ci, à relever les manches et à consacrer du temps pour cela, Pierre ?
Je ne sais pas si on doit dire qu'on est un petit peu misanthrope au fond, mais non, peut-être pas. Non, mais après, on va aller travailler aussi sur la diffusion du savoir. C'est-à-dire qu'on va aller faire un peu de vulgarisation sur le savoir. Et puis, même techniquement, on avait une structure une région qui était totalement dénuée de structures qui font du soin aux mammifères. On avait une structure compétente avec
les oiseaux.
Pour les oiseaux, voilà. Mm-hmm. En revanche, on n'avait absolument rien quand nous on a fait ce constat-là pour les mammifères en Auvergne. Les premiers centres de soins, c'était ou Limoges ou plutôt Rhône-Alpes.
Ça existe partout ailleurs, sauf en Auvergne.
Non, pas partout ailleurs, mais c'est assez. Ça peut être répandu, mais pas au point de suffisamment quadriller le territoire français. Et la première structure qu'on avait dans le Massif Central, à ma connaissance, c'était Millau.
Ah oui.
Et il y avait vraiment un gros trou. Voilà, c'est ça. Il y avait vraiment un gros trou ici, et on est parti de ce constat-là pour monter Pense-Bête.
Vous êtes à Chamalières.
Oui, à Chamalières. Mais en même temps, Pierre n'a pas tout à fait répondu à ma question. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on s'intéresse à la nature de près, au point, un autre jour, de faire partie d'une structure comme Pense-Bête? Comment c'est entré dans votre vie, à l'un et à l'autre, l'intérêt de la
nature ? Comment y arriver, un petit peu ? En fait, on s'aperçoit que c'est un peu aussi une tendance naturelle de s'intéresser aux animaux. Alors, ça peut commencer par les chats, les chiens... C'est une certaine approche. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui contemplent un peu ce qu'il y a autour et qui veulent agir pour. C'est pas que contempler, c'est aussi agir pour. Et c'est vrai que le monde associatif tel que celui-ci réunit des gens. Là, en l'occurrence, d'horizons complètement différents. On avait un groupe de personnes qui étaient à l'initiative de l'association, qui s'est retrouvé dans un autre contexte associatif, mais qui était dans une dynamique de vouloir faire ensemble. Alors, on voulait au début faire pour soigner des oiseaux, pour apprendre mieux autour et faire partager cette connaissance, comme disait Pierre. Et le fait de se rencontrer avec un but commun nous a permis d'aller vers ça. Et surtout, aujourd'hui, de faire participer des gens qui pourraient en avoir envie. Et l'esprit, c'est ça, c'est de pouvoir être dans cette dynamique un petit peu spontanée, de répondre aux besoins des personnes qui sont déjà intéressées et curieux, et après de les accompagner pour faire ensemble.
La porte est ouverte, en clair.
Complètement.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Exactement.
L'intérêt de la nature, donc, ça veut dire qu'il y a, à travers les actions de Pense-Bête, donc une action de soins hein, pour les mammifères sauvages. Mais au-delà de ça, il y a aussi une volonté d'éducation à l'environnement, entre guillemets. Ça fait toujours un peu peur ce terme-là, mais ou du moins de sensibilisation à la connaissance du monde qui nous entoure.
Elle se fait nécessairement par quelque chose qu'on voit de plus en plus, c'est la médiation avec la faune sauvage. Alors c'est peut-être Laurent qui pourra en parler un peu mieux que moi, mais on a régulièrement des appels ou des gens qui nous contactent pour des situations qui n'ont pas forcément à voir directement avec le soin aux mammifères sauvages, mais qui touchent ces espèces-là et l'homme. Après Laurent,
ça veut dire j'ai une bête chez moi, qu'est-ce que j'en fais, c'est ça?
Alors. Ouais. Oui, ça peut être ça. La concertation, la médiation, c'est aussi conseillé, en fait. Les gens nous appellent un peu spontanément. Comment est-ce que je pourrais avoir des animaux qui reviennent chez nous? On a toujours un peu cette image un peu idyllique des hirondelles qu'on avait à foison, ce genre de choses. Et les gens reviennent aussi vers ça en se disant, bon, est-ce que vous pouvez amener des bêtes chez nous?
Alors, ah oui.
Plutôt qu'aller vers ça, l'inverse. On leur dit, voilà, faites en sorte de rendre accueillant votre jardin, vos milieux, vos espaces, et les animaux reviendront de manière assez spontanée. Mmh. Et la démarche, la technique et la nôtre, c'est de l'accompagner les gens dans cette dynamique.
Et alors, quand vous avez cette demande-là, ça concerne quels animaux? Parce que j'imagine qu'on ne vous appelle pas pour avoir un lérot dans le plafond ou
On en a.
C'est vrai. Un cerf dans le jardin.
C'est un peu moins commun non plus.
Il y en a des fois sur HPN.
C'est vrai que la vraie réflexion fera probablement écho à notre interview récochée de tout à l'heure. Mais c'est en effet souvent tourné vers le hérisson, qui a une très belle image. Et les gens les ont vus arriver et disparaître au fur et à mesure. Mm-hmm. Ou en tout cas s'interrogent sur ça. Comment faire pour faire en sorte d'accueillir mieux les hérissons, ou en tout cas de moins les impacter? Ça, c'est des questions assez récurrentes auprès de l'association.
Alors moi, j'ai une question, une histoire qui m'est vraiment arrivée. Hein. Cet été, j'ai rencontré un gentil hérisson dans mon jardin, en plein jour, qui était blessé, forcément. On dira peut-être qu'un hérisson qui se balade en plein jour, c'est pas forcément normal. Alors, ma première réaction, c'était de l'amener au vétérinaire. Et le vétérinaire m'a relayé vers vous, à Pense-Bête. Mais il a gardé le hérisson, il vous l'a donné. Alors la question, c'est, qu'est-ce que vous en faites après du hérisson? Vous me le rendez? Vous me le rendez? Je l'avais appelé Nestor. Qu'est-ce que vous en faites du hérisson? Il avait peut-être bâti sa maison dans mon jardin, après tout.
Complètement. C'est d'où le travail aussi de sensibilisation, de médiation qu'on doit faire avec les gens. L'idée du centre de sauvegarde, dans la mesure du possible, c'est de pouvoir, en effet, en fonction du moment, en tout cas, de subvenir, en tout cas, répondre au mieux.
On est en train de perdre Arnaud. Là.
Arnaud est en train de mourir.
Voilà.
Donc, répondre au mieux donc aux besoins des gens, qui est soigner la bête. Qu'est-ce qu'on en fait après? C'est souvent une interrogation. Ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est le fait que on essaye d'intégrer au mieux la bête dans un cadre de soins pour pouvoir le rendre à la nature quelque part. Est-ce qu'il doit nécessairement revenir dans tous les endroits où il était? Pas toujours, pour plein de raisons différentes. parce qu'il y a plein de cas différents.
Chaque bête soignée. Il a son cousin à côté.
Alors il peut y avoir le cousin, il peut y avoir
le frère. L'humanité, s'il vous plaît.
L'humanité est là, vous inquiétez pas. L'esprit, c'est de se dire, en tout cas, on va relâcher l'espèce, ou en tout cas l'individu, dans le milieu le plus adéquat. Mmh. En effet, dans certains cas, on les retrouve, surtout des petits hérissons, on les retrouve dans les jardins, en ville, on en a clairement. Hein.
Ouais.
Est-ce qu'il est très pertinent de relâcher ces mêmes bêtes dans le même jardin ?
D'accord.
Probablement pas, parce qu'en plus, une sorte d'apprentissage ne sera pas nécessairement fait quand c'est nous qui l'élevons pour le relâcher. Alors que si on le relâche dans un milieu qui sera optimal, on lui assure une plus grande vie. Et ça, ça répond vraiment aux besoins des gens, souvent. C'est-à-dire ouais. qu'ils veulent surtout...
Mais donc, vous les gardez quand même.
Donc, on va les garder oui. le temps du rétablissement. On va aussi, derrière, avoir toute une partie qui va nécessiter de leur rendre un petit peu de force, de vigueur, de les rééduquer un petit peu à la naturalité, à la nature. Et après... on les relâche parce que c'est vraiment l'objectif premier de l'association.
Oui, et puis en sachant quand même qu'il s'agit d'animaux sauvages. Hein, on ne parle pas de caniches ni de
Ah oui, les relâcher dans mon jardin, on est d'accord.
Il ne s'agit pas non plus de les redonner pour qu'ils soient apprivoisés. C'est pas le but hein, de l'association. On reste bien dans l'animal sauvage.
Hein. Alors c'est vraiment ça, et c'est pour ça qu'on a un message à faire passer, c'est-à-dire que la première approche est souvent très sensible, et après, en discutant ensemble. On s'aperçoit de la nécessité technique et un peu plus rationnelle qui veut que ce qui vous intéresse, vous, c'est que votre bête soit bien après. Mmh. Et pas nécessairement que vous l'ayez vous, mais qu'elle soit bien derrière et qu'elle puisse se reproduire. Et dans votre jardin, vous savez quoi ? En plus, s'il y en a une aujourd'hui, il y en aura une demain.
Voilà, Laurent Lanchambon et Pierre Lallemand de l'association Pense Bête sont les invités d'H2O en balade jusqu'à 12h30 dans quelques instants, le flash de midi.
H2O en balade sur France Bleu Pays d'Auvergne. France Bleu. Profession insolite.
Faites vos choses, s'il vous plaît.
Chasseurs de trésors, paparazzi, égoutiers, love coach, thanatopractrice, agents du renseignement. Ces professionnels à l'activité étonnante et peu commune nous parlent chaque jour de leur travail.
On peut être amené à devoir suivre des inconnus dans la rue.
Entre confidences et anecdotes, un étonnant voyage au cœur de ces métiers hors du commun.
Là, je pense qu'à les égouts, si on ne voit pas des ronds, on va flipper même. Hein.
Profession insolite, du lundi au vendredi à 7h50 sur France Bleu Pays d'Auvergne et à tout moment sur francebleu.fr.
L'immuno-oncologie est une nouvelle option thérapeutique pour prendre en charge les cancers. Le professeur Denis Moreau-Sibillo est pneumologue, il nous en dit plus.
L'immuno-oncologie, c'est une nouvelle manière d'aborder le cancer, de le traiter. En fait, l'immunité, naturellement, sert à contrôler le cancer. Mais avec le temps, cette immunité s'épuise. Et l'immuno-oncologie permet de restaurer une immunité qui permet à nouveau de contrôler le cancer.
En France, des médecins s'engagent pour améliorer la prise en charge du cancer. Cette chronique a été réalisée à l'initiative de Bristol Myers Squibb.
France Bleu Pays d'Auvergne, dans la vallée des Saints, 102.5.
Calvin Harris avec Katy Perry, aussi Pharrell Williams également. Il est midi sur France Bleu.
France Bleu Pays d'Auvergne a sélectionné pour vous
la 22e fête des Payas. C'est à Massiac, rencontre occitane, manifestation réunissant les rencontres et la foire aux pommes et aux fruits de tradition. Vous retrouvez le programme complet sur www.paya.org.
Les coups de cœur avec la Belle Guada, votre spécialiste pour vos projets de véranda et menuiserie sur www.labelleguada.com et dans votre nouveau magasin à Clermont.
Il est midi, Dominique Manon pour l'information. Les locaux de l'institution Monange à Clermont-Ferrand, transformés en centre d'accueil pour migrants.
Oui, il y a quelques jours, le préfet a écrit aux propriétaires des lieux. L'idée serait d'accueillir notamment les réfugiés qui ont déposé une demande de droit d'asile, mais dont le dossier n'a pas encore été examiné. Retour sur cette info au France Bleu tout à l'heure dans notre journal de midi et demi. Pendant ce temps, vous le savez, 70 migrants campent toujours près de la fac de lettres à Clermont. Une manifestation de soutien a d'ailleurs rassemblé près de 800 personnes hier soir sur la place de Jaude. Le meurtrier présumé a fui en Turquie. Tout dernier élément de l'affaire du meurtre d'un jeune homme de 21 ans, dimanche dernier à Clermont, lors d'une soirée étudiante. L'homme qui a poignardé le garçon a bénéficié de l'aide de membres de sa famille et d'amis pour quitter la France. Une information judiciaire pour meurtre et recel de malfaiteurs a été ouverte. Deux blessés, dont un grave, ce matin, un peu avant 7h à Gerza. Une voiture et une fourgonnette se sont percutés. Un choc frontal assez violent.
Pas facile de se déplacer aujourd'hui sur l'agglomération clermontoise.
Et oui, puisqu'il n'y a ni bus ni tram, les agents de la T2C exercent ce qu'on appelle leur droit de retrait en réaction à l'agression de deux contrôleurs mardi soir. Un homme les a menacés avec un couteau. Selon la CGT, l'insécurité est en hausse sur le réseau qui manquerait de moyens. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de midi et demi. Le football et la Coupe de la Ligue, c'est fini pour Clermont. Le club a été battu 4 buts à 2 hier soir à Toulouse en 16e de finale. Ils ont découvert le métier de soldat. Une quinzaine de jeunes clermontois du quartier de la Fontaine du Bac ont passé la journée d'hier au 92e régiment d'infanterie de Clermont. Alors ils ont découvert les matériels, ils ont aussi rencontré des militaires de retour de mission. Deux de ces jeunes nous diront d'ailleurs dans une petite demi-heure ce qu'ils retirent de cette expérience. Voilà Arnaud, la météo, c'est printanier, voire estival.
Et c'est ça, et condition qu'on maintient des conditions estivales avec toujours un grand soleil aujourd'hui.
La météo avec les services funéraires d'Abrigeon, la marbrerie et la prévoyance obsèques à retrouver sur www.pfdabrigeon.com.
Le soleil est à nouveau omniprésent l'après-midi où il brille sans partage. La sensation d'été se fait sentir. Les maximales fleurent toujours avec les valeurs records jusqu'à 27 degrés en Limagne, 22 à 23 vers les 1000 mètres. Du monde sur la route, boulevard Étienne Clémentel, toujours à Clermont avec ce chantier de démolition de la passerelle jusqu'à vendredi. Beaucoup de monde, ça bloque encore une fois maintenant. Soyez prudents. Et sur la 71, aussi au sud-est, vers Clermont-Ferrand, à 71, on est au sud donc de Clermont-Ferrand, vers le péage, il y a beaucoup de monde. À 711, en allant sur l'Ande, en partant de Clermont, un véhicule en panne, soyez bien sûr vigilants.
Respirez. Apprendre. S'évader, découvrir. H2O, on balade.
H2O, on balade avec une association, coup de projecteur sur Pense-Bête, qui est installé à Chamalières.
Absolument. Les locaux de Pense-Bête sont installés à Chamalières. On va revenir sur cette structure, sur cette association dans quelques instants. Le temps pour moi de vous préciser qu'à 1h20, nous vous donnerons quelques rendez-vous nature pour découvrir la région à travers de nombreuses manifestations. Et 1h10, le reportage H2O de la semaine, 4e épisode consacré aux mousses. Mousse toujours, c'est le titre de ce reportage réalisé en compagnie de Gérard Guillot, naturaliste.
H2O en balade sur France Bleu Pays d'Auvergne. H2O.
Laurent Longchambon et Pierre Lallemand sont deux des piliers de l'association Pense Bête, association installée donc à Chamalières, qui a pour but de porter secours aux animaux sauvages en détresse, aux mammifères en particulier. Donc quand on parle des mammifères, tout à l'heure on l'a dit dans le portrait, ça va de la chauve-souris au cerf. Est-ce que vous êtes capable d'accueillir aussi ce qu'on appelle des ongulés, de grands animaux ?
Alors. La réalité quand même du centre de soins, c'est d'abord essentiellement trois groupes faunistiques, les chauves-souris en effet, parce que en fait on a beaucoup référence, comme disait tout à l'heure Pierre, sur on est plutôt référencé vers les animaux qui sont anthropophiles, qui vivent près des hommes. Près donc des les hommes. Chauves-souris, les écureuils et les hérissons. Ça sont grossièrement quand même les principales bêtes qu'on reçoit au centre de soins.
Mais pas seulement.
C'est-à-dire que derrière, on peut en effet recevoir des mustélidés. On a aussi des prérogatives.
Alors les mustélidés, il faut le dire, c'est
Pierre va nous parler des mustélidés.
Hermine, belette,
et jusqu'au blaireau, ouais. La loutre et autres.
Difficile à attraper quand même une loutre hein, pour l'amener à Chamalières.
Ah ben, le but du jeu, c'est pas de l'attraper, mais après, on peut avoir...
Arnaud, il va falloir qu'on vous explique ce qu'est Pense Bête, c'est ce qu'on va essayer de faire pendant une demi-heure. Il veut absolument courir après les animaux pour vous les amener.
Après, autre mustélidé, on a les martres et fouines, qui sont elles aussi assez anthropophiles, la fouine notamment, qu'on peut avoir régulièrement en centre de soins. Après, un peu plus anecdotiquement, du putois. De la belette, mais voilà, c'est ce groupe-là qui va du blaireau jusqu'à la belette.
Donc ça, c'est le deuxième groupe. Et le troisième, Laurent ?
Essentiellement, donc, après, on peut en effet accueillir donc, d'autres petits rongeurs, des tout petites choses. Mm-hmm. Donc ça, c'est un peu notre particularité, c'est-à-dire qu'on soigne tout ce qui a des poils. On n'a pas trop on n'est pas trop dans la discrimination des bêtes. Donc, tant que ça reste un mammifère sauvage, on le soigne. Et c'est vrai qu'il nous arrive, par exemple, de soigner des lairaux ou des muscardins, qui est une espèce de petite souris qui ressemble à rien, toute dorée.
Elle ressemble à rien, je ne suis pas d'accord avec vous. Elle est très jolie, cette petite souris qui fait des nids à l'intérieur des buissons, hein, dans les
ronciers, souvent. Ouais.
Dans les ronciers, et qui a la particularité de perdre la peau de sa queue quand elle est en danger, hein, c'est bien ça.
Alors, les gliridés, en règle générale, ont cette faculté-là, un peu à l'instar des lézards, vous savez, on tire la queue, enfin on tire pas, je te regarde Arnaud, donc tu arrêtes de tirer les queues. sur le fond, c'était plutôt pour échapper aux prédateurs, l'esprit c'était ça. Donc on peut recevoir voilà, des petites bêtes comme
mais
ça.
Mais pas les grands mammifères. Hein.
Et après, aujourd'hui, en grand mammifère, on commence à avoir des limites, on le voit, en termes de capacité d'accueil. Ce qui fait que, réglementairement, on va travailler pour pouvoir les accueillir de manière plus adéquate.
Parce que là, pour l'instant, la structure ne le permet pas.
Aujourd'hui, la structure ne le permet pas. En revanche, le service qui concerne l'accueil des ongulés reste quand même opérationnel. C'est-à-dire qu'on se donne quand même la possibilité d'intervenir auprès des gens pour leur rendre ce service.
Alors concrètement, pour répondre à une question d'Arnaud tout à l'heure, quand on se retrouve face à un animal sauvage en détresse ou blessé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quels sont les bons gestes ? Quelle est la bonne attitude à adopter ?
Je pense que la première démarche, c'est une fois qu'on s'est interrogé sur le contexte. Alors en effet, comme tu as dit tout à l'heure Arnaud, on voit un hérisson en plein jour, il y a un problème.
Bizarre.
Il y a un souci, donc c'est vrai qu'il y a des messages d'alerte comme ça qu'il faut connaître. Après, c'est vrai que téléphoner, passer un coup de fil à l'association, vous aurez en plus tous les auditeurs, nombreux sont-ils, auront le numéro de l'association.
Vous allez nous dire, eh oui.
Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Derrière, il y aura un échange sur qu'est-ce qu'on doit faire.
Bien sûr.
Parce qu'il y a des cas où qu'on appelle ça, en fait, les principes de bon samaritain. Il y a des cas où l'interventionnisme n'est pas nécessairement obligatoire. C'est même plutôt négatif. On a des cas comme pour les jeunes chevreuils, qu'on pourrait croiser en balade dans la campagne. On entend pleurer. C'est assez surprenant, un jeune chevreuil. Ouais. Mais il n'est pas pour autant abandonné par ses parents. Mais nous, notre cœur, en tout cas notre appréhension assez sensible, fait qu'on est dans cette détresse en tout cas apparente, et on intervient. Alors qu'il ne faudrait pas, à l'instar de ce qu'on fait par
des
exemple pour les chouettes.
Voilà. Chouette, oui, tout à fait.
Donc c'est la même démarche, d'où l'intérêt de prendre contact avec le centre de sauvegarde, qui vous donnera donc les bonnes consignes. Et après, toujours avoir en tête le fait que ce qui est très impactant pour la faune sauvage, quand on revient bien sur ça, c'est le stress. C'est-à-dire que chaque manipulation, chaque contention, le fait de le mettre dans un endroit, même si on le rentre dans la voiture, mais qu'on met la radio à fond, voilà, ça va occasionner des stress qui peuvent être même létaux pour certaines bêtes.
Oui.
Parce que certaines sont presque assez fortement cardiaques, en tout cas, ont une vraie sensibilité. Et donc, l'idée, c'est vraiment aussi d'essayer de prévenir cette phase-là, et donc avoir des moyens de contention assez simples, un peu, je le répète, souvent le modèle oiseau est pas mal, mais un carton, dans pas mal de cas, ça peut suffire. Mais tout ça, ce sont des consignes qu'on va donner pour à la fois être dans le bon geste et puis sur le comment bien faire.
Dans quelques instants, on continuera à s'intéresser à l'association Pense Bête, donc située à Chamalières. On vous donnera toutes les coordonnées, bien évidemment, pour contacter cette association si vous vous retrouvez face à un mammifère sauvage blessé ou en détresse. On vous retrouve, messieurs Laurent Longchambon et Pierre Lallemand, juste après Johnny Hallyday, parce qu'on a tous quelque chose de
d'étrange ici.
À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie, cette main tendre et légère.
On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie. Rêvons-nous avec ces mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie. Ce rêve en nous, c'était son cri à lui, quelque chose de Tennessee. Étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un bruit, sans un seul amour, sans un seul ami. Ainsi disparu Tennessee, certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. Oh, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee.
La voix de Johnny Hallyday, quelque chose de Tennessee, une chanson composée par Michel Berger, éternel, évidemment. Midi 13, H2O en balade.
Flâner, H2O vous emmène en balade.
Gros plan ce midi dans H2O en balade sur l'association Pense Bête avec nos deux invités Pierre Lallemand et Laurent Longchambon.
Alors Pierre et Laurent, il est peut-être bon de préciser que le logo que vous avez choisi, enfin du moins la petite image que vous avez choisie, c'est bel et bien un hérisson avec un sparadrap. Pour autant, il faut bien préciser que vous n'êtes pas uniquement là pour soigner les hérissons, vous soignez aussi d'autres animaux, d'autres mammifères sauvages, blessés ou en détresse. On l'a dit, hein, des petits mammifères, des chauves-souris aussi, ça fait partie des animaux que vous recueillez souvent, Pierre ?
Oui, effectivement, on l'a dit tout à l'heure. On est effectivement plus sollicité par des espèces, pour des espèces qui vivent à proximité de l'homme. On tombe plus facilement sur elles, mais à partir du moment où on va se promener, où on va faire toute autre activité, où on refait même un plafond, où on refait une toiture, n'importe quoi, on peut tomber sur beaucoup d'autres espèces. Le chat peut vous ramener une chauve-souris. On parlait des chauves-souris, par exemple. C'est assez important. On a en plus de ça un réseau intéressant en Auvergne avec chauves-souris Auvergne, par exemple, des spécialistes. Et on a notamment voilà des chauves-souris. Les gens savent pas forcément d'ailleurs toujours où les amener, ces chauves-souris.
Mais on peut les amener chez vous.
Et voilà, Pense-Bête est là pour ça, effectivement. Et puis tout ce qui a des poils, de manière générale, peut tomber chez Pense-Bête à partir du moment où ce ne sont pas des espèces domestiques.
Alors concrètement, une fois que vous avez apporté les soins nécessaires à un animal, comment se passe la remise à l'état naturel, à l'état sauvage, Laurent ?
Le challenge est là souvent. C'est-à-dire qu'il y a plein de cas de figure différents. Il y a des animaux qui ont besoin de soins, mais sur une très courte durée. Donc on peut relâcher de manière assez spontanée au bout d'une petite semaine de convalescence. Et puis après, il y a ceux qui peuvent avoir ou besoin de soins très longs, ou pour beaucoup de nos entrées, ce sont des bébés qu'on reçoit, des très jeunes. Donc une phase d'élevage, une phase d'apprentissage, et après, dans ce cas-là, on relâche de manière très progressive. On a des systèmes qu'on appelle dits de taquet, donc c'est-à-dire qu'on ne prend pas un bébé qu'on a élevé pendant 6 mois, on ne le relâche pas comme ça spontanément. On le met dans une structure, un petit gîte artificiel, dans lequel il est nourri. Ce gîte est ouvert sur l'extérieur, ça lui permet de faire des allers-retours, d'appréhender nouvellement un monde qu'il ne connaît pas, et puis de s'émanciper peu à peu.
Alors, donc il y a un vrai accompagnement. C'est l'imprégnation, parce que quand on s'occupe de petits comme ça, les individus de repère qu'ils auront seront ceux qui le soignent, il faut éviter cette imprégnation, comment vous faites ?
C'est un vrai challenge. Alors, la technique tient à deux critères particuliers, en tout cas pour essayer de parer ce problème. Un des premiers atouts d'un centre de soins, c'est qu'on est nombreux. C'est-à-dire que la personne qui va élever la bête va être formée en interne pour avoir des capacités à le faire. Et en plus, sera différente de la personne qui va être dans la phase d'émancipation. Mmh. Donc, par exemple, moi, je suis plutôt dans la phase d'émancipation avant le relâcher, et j'élève quasiment pas de bébés. C'est pas mon rôle. Mmh. Normalement, on forme des nurses pour le faire. Le deuxième point qui est très important et qui est pour le moment crucial, c'est le principe de fratrie. C'est-à-dire qu'en effet, quand on a un hérisson ou un écureuil ou un renard à la maison qu'on élève un peu comme un chien, ça reste un chien. Si en revanche, avec des savoir-faire qui ont été prodigués, et aussi si on l'élève avec d'autres membres de son espèce, cette imprégnation qui en effet le manque de repères à l'espèce n'a pas lieu ou bien moins lieu. Et d'où l'intérêt aussi, outre le contexte réglementaire, de flécher les animaux vers les centres de soins plutôt que le faire à la maison.
On n'a pas précisé qui les soignait, ces animaux.
Donc le soin est prodigué, dans le cas des centres de soins, par des vétérinaires.
D'accord.
C'est-à-dire que la sémantique centre de soins est un peu faussée. Les soigneurs qui sont en centre de soins n'ont pas de prérogatives pour soigner, au sens propre du terme. On peut faire des soins secondaires, ou d'urgence, mais c'est le vétérinaire qui est référent de la structure, qui est habilité à faire les soins au sens propre. La mission du centre de soins et des bénévoles soigneurs du centre de soins, c'est de nourrir, c'est de s'occuper des animaux pour les mettre dans les meilleures conditions pour être relâchés.
Des vétérinaires qui exercent, pour le coup, bénévolement, là, pour ce genre de choses.
D'où l'intérêt de la création d'un réseau qui sera très opérationnel, à la fois pour le rapatriement, mais aussi pour l'action.
Aujourd'hui, Pierre, c'est combien de vétérinaires qui travaillent pour vous, pour Pense-Bête, à la louche comme ça ?
4,
c'est pas beaucoup. Fait signe, Laurent. Oula, c'est pas beaucoup. Donc
non, c'est pas beaucoup.
Après, vous lancez un appel là.
On s'est fait connaître aussi des réseaux de vétérinaires, en passant notamment par l'ordre des vétérinaires régionales. Mais effectivement, on a encore régulièrement des gens qui nous disent avoir amené une bête chez les vétérinaires et vétérinaires qui n'étaient pas au courant. Donc effectivement, on a encore à travailler. On a encore beaucoup de choses à développer.
Juste bien pour préciser, c'est-à-dire qu'il y a deux manières pour les vétérinaires d'agir. Il y a ceux, on en a 4 avec nous, qui travaillent pour prodiguer des soins de manière très active.
Et vous avez besoin aussi d'un réseau de collecte, en
exactement,
quelque sorte.
Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on pourrait complètement s'appuyer sur un réseau bénévole de vétérinaires, de cliniques, qui quadrillent le territoire et qui nous permettrait d'avoir des zones, des points relais avec l'appréciation d'un spécialiste, mais ça demanderait très peu de temps. Ouais. D'où l'intérêt de la démarche.
D'autant que la région Auvergne est vaste et vous intervenez aussi sur les régions limitrophes, donc c'est énorme. Dans quelques instants, on va accueillir quelqu'un que vous connaissez bien, Laurent Longchambon, c'est le choix de l'interview Ricochet. Qui avez-vous choisi ?
Yves Benoît,
un drôle bien, de personnage. Sur cette antenne, Yves Benoît qui est aussi jardinier formateur au CPIE Clermont-Dôme et ici sur cette antenne, France Bleu, Pays d'Auvergne. Yves Benoît, on va le retrouver dans quelques instants, juste après. Ceci,
c'est ça.
Notre expert jardinage est là pour vous, tous les samedis matins, sur France Bleu Pays d'Auvergne.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
S'il n'y a pas de bourdon dans les environs, pas de pollinisation. Seconde chose, c'est qu'il existe des variétés qui sont hybrides, et si on les ressème, eh ben on a des plantes qui sont stériles, malheureusement.
Samedi matin, 9h, 10h.
Et nous n'avons plus une feuille sur notre arbre.
On va faire un ou deux traitements, et après on refera un traitement au printemps, juste avant le gonflement du bourgeon, et ça va un petit peu couper le cycle de la maladie.
Besoin du conseil d'un pro du jardin, 04 73 34 2000. France Bleu présente
Je t'emmène où je vis.
Promesse,
loin des villes,
le nouvel album de Patrick Fiori.
Tu trouveras sans doute ce qui te ressemblera.
Un album réalisé avec des complices de longue date, mais aussi de nouvelles figures de la pop française.
On finira nos nuits, nos lendemains.
Patrick Fiori, nouvel album Promesse. Un album France Bleu. Toutes les infos sur FranceBleu.fr.
En ce moment, on parle beaucoup de chiffres. Alors en voilà quelques-uns de plus. Un Français sur deux vit ou a déjà vécu dans un des 4,8 millions de logements HLM. 2,2 millions de locataires bénéficient d'une APL. Chaque année, 50% des logements attribués le sont à des ménages en dessous du seuil de pauvreté. 18 milliards d'investissements font travailler des centaines de milliers de salariés, notamment dans le bâtiment. Mais ce qui nous anime, ce ne sont pas les chiffres. C'est un vrai projet économique et social. C'est la solidarité nationale. Retrouvez ce projet sur union-habitat.org.
Un message de l'Union sociale pour l'habitat.
France Bleu, Pays d'Auvergne, à Vichy, comme un Saint-Germain-des-Fossés. 102.5.
H2O en balade jusqu'à midi et demi, on a le plaisir d'accueillir Yves Benoît. C'est l'interview ricochet, le choix de Laurent Lanchambon de l'association Pense Bête. Yves, bonjour.
Oui, bonjour Christophe.
Alors Yves, on parle de mammifères hein, dans cette émission avec oui. L'association Pense Bête. Les mammifères, il y en a dans le jardin. Il y a parfois oui. des pratiques dans le jardinage, des mauvaises pratiques d'ailleurs, qui peuvent avoir de sérieuses incidences. On pense en premier lieu aux feux de jardin qui sont interdits, on le rappelle. Hein, il y a un arrêté préfectoral qui interdit les feux de jardin. Pourtant, c'est encore une pratique très courante. On allume, on craque les allumettes assez facilement. Et là, on peut avoir de sérieuses incidences, hein, Yves.
Eh ben, tout à fait. Lorsque l'on va brûler des branchages, effectivement, on risque de détruire des abris de nombreux petits mammifères et autres qui peuvent être très précieux pour l'équilibre de l'écosystème du jardin. Hein. Oui, tout à fait.
Et quand on brûle un tas de branchages, on brûle aussi oui. des mammifères sauvages nocturnes
oui.
qui dorment sous le branchage.
Voilà, c'est exactement ça. D'autant plus que ce branchage, on pourrait tout à fait l'utiliser, à contrario, pour fabriquer pour un petit tas de branchages dans un coin du jardin, sera le lieu qui va abriter de nombreux petits mammifères, effectivement. Alors si on les brûle, ça va tout brûler, effectivement.
Et si on a besoin vraiment de les enlever, ces branchages, s'ils sont un petit peu encombrants, on attend le printemps, on fait comment ?
Alors, si on a besoin de les enlever, effectivement, il vaut mieux attendre la saison où il fait plus chaud, hein, parce que ce sont souvent des abris qui sont protecteurs du froid, et donc de nombreux petits mammifères, comme le hérisson, par exemple, va s'abriter là pendant la période hivernale. Il y aura moins d'incidence, moins de danger si on va détruire ce tas de bois pendant la période où il fait chaud, bien évidemment.
Et de manière générale, on n'allume pas de feu hein, dans les jardins, surtout si on arrivait à faire passer ce message, ce serait super, parce que ça n'est pas sans incidence hein, au niveau environnemental.
Ça serait super, et d'autant plus que tous ces branchages, outre le fait qu'ils peuvent servir pour faire des refuges d'animaux, sont de la matière organique précieuse. Vous savez, le fameux BRF, ce sont des petits branchages qui sont broyés. On peut aussi composter ces branches qui, au bout d'un certain nombre de temps, alors les branchages, il faut attendre bien 2 ans, si vous voulez, pour obtenir un bon compost. Hein. Donc, il y a de nombreuses alternatives plantes intelligentes et efficaces au feu dans le jardin, bien évidemment.
Ouais, d'autant que le feu aussi pollue l'environnement et l'air en particulier, puisque toute combustion provoque bien évidemment des pollutions. Merci beaucoup Yves d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez le choix de Laurent Longchambon qui vous a écouté avec beaucoup d'attention et qui a bu vos paroles, Yves.
Merci Yves.
Mes amitiés à Laurent et à toute la radio.
Merci Yves. Yves Benoît, un sage parmi les sages, c'est le moins qu'on puisse dire. On revient sur l'association Pense Bête, Laurent Longchambon. On a donné quelques indications. Le mieux quand on a un doute, c'est de vous appeler ou de vous contacter. Comment on peut faire on appelle le numéro de portable de l'association, c'est
exactement,
ça
c'est le mieux. Mais c'est vraiment emblématique de notre fonctionnement, c'est-à-dire qu'on met l'humain au centre de l'action. Et c'est vrai que par-delà ce que l'on peut trouver, on retrouve beaucoup de ressources aujourd'hui sur Internet ou autre, par-delà ce message-là, c'est aussi de se dire que vu que c'est l'homme qui interagit avec son environnement, c'est aussi à lui d'intervenir et d'agir pour l'environnement. Et nous, on est vraiment dans cette phase de médiation. Donc en effet, en appelant le centre de soins au 06 46 62 36 89, on va m'avoir, moi ou quelqu'un d'autre, qui sera à même à échanger avec les personnes sur le comment et le quoi faire.
Il existe un site internet également, oui. pensebête.fr.
Et je précise qu'il est très très bien référencé. On tape pensebête sur un moteur de recherche, on tombe immédiatement sur votre site.
Pense avec un très actif.
Avec un A, il faut le préciser parce que c'est important. Pensebête.fr où on a toutes les informations et bien évidemment les coordonnées que vous venez de nous donner, le 06 46 62 36 89, ce fameux numéro d'appel d'urgence. Dernière question parce que le temps passe très très vite. Que vous apporte l'exercice quotidien de membres actifs de l'association Pense Bête, Laurent Longchambon?
Je pense qu'il y a, honnêtement, il y a aussi une phase égoïste. Il y a un vrai plaisir personnel à être dans cette démarche-là.
On aimerait bien plus d'égoïstes comme vous.
Oh, l'égoïsme se juge. Donc concrètement, c'est vrai qu'il y a un vrai plaisir personnel, je pense, pour tous les bénévoles qui viennent et qui agissent. Mais c'est vrai que cette action a le bénéfice de pouvoir faire partager du bienfait, en l'occurrence là à des animaux sauvages, et nous réunit tous dans une même dynamique. Et je pense que cette démarche qu'on retrouve dans toute phase de bénévolat, qui est à la fois de rendre service et à la fois de se rendre service à soi-même, c'est de partager un moment ensemble, pied intense.
Même question pour vous.
Oui, ben, déjà, il y a un avantage en termes d'apprentissage, c'est qu'on apprend forcément, enfin, en tout cas pour moi, énormément quand on a les mains dans le cambouis. Et quand on apprend de cette manière-là, en faisant les choses, c'est un savoir qui, à mon sens, a peu de chances de se perdre. Et ensuite de ça, il y a aussi, on parlait de réseau tout à l'heure, il y a le fait qu'on est en Auvergne avec quelques associations assez actives et on continue à épaissir ce tissu d'associations en travaillant avec le groupe mammalogique d'Auvergne, avec Chauve-souris Auvergne, on en parlait tout à l'heure, et puis on complète un peu l'offre, si on veut parler de manière commerciale, autour des mammifères en Auvergne.
Et il y a aussi de la nature et de l'environnement. Et j'aime bien l'image des mains dans le cambouis parce que finalement la nature c'est une sacrée mécanique qui mérite toute notre attention. Merci à vous deux d'être venus dans cette émission.
Merci.
Laurent Longchambon et Pierre Lallemand de l'association Pense Bête. pensebête.fr si vous souhaitez en savoir plus.